Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Co-émergence. Eid Moubarak Saïd, à vous qui célébrez cette importante fête religieuse musulmane au Maroc et excellente fête de Tabaski également, comme on dit en Afrique subsaharienne, notamment nos auditeurs qui nous suivent en Afrique de l'Ouest. On vous souhaite donc Eid Moubarak et excellente Tabaski avec nos meilleurs voeux. Dans Co-émergence cette semaine, nous allons parler de coopération sud-sud, surtout entre les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. On le sait, le Maroc est en avant dans cette coopération. Mais qu'en est-il des autres pays du Maghreb? Nous allons nous intéresser à la Tunisie avec l'exemple de la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans quelques instants. Et avec notre invité, nous allons rester en Côte d'Ivoire. C'est pour parler de l'Africa Food Show prévu en août prochain à Abidjan. Il y sera question de trouver les moyens d'accélérer la croissance et du secteur agricole donc en Afrique. Nous en parlerons avec Mahmoud Latifi, l'un des organisateurs de cet événement. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais donc, nous allons parler de coopération sud-sud et surtout entre les pays du Maghreb et ceux d'Afrique subsaharienne. Comme je vous le disais, le Maroc est donc l'un des principaux pays africains investisseurs en Afrique, mais en tout cas le premier pays d'Afrique du Nord et du Maghreb présent sur le plan économique donc dans le continent. Qu'en est-il des autres pays donc de cette région? Notamment, on prend l'exemple de la Tunisie. Et nous allons en parler donc pour voir comment évolue cette coopération entre la Tunisie et ses partenaires du continent, en prenant donc l'exemple de la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Rim Saïdi. Elle est la vice-présidente de la Chambre de commerce Tunisie Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Rim Saïdi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar, merci beaucoup de m'avoir invité.
Avec nous également Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, avec vous deux, nous allons donc parler de l'exemple de la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire. Alors, Rim Saïdi, la première question est à vous. Hein. Alors, avant tout, je vous souhaite Eid Moubarak Saïd à vous deux. Alors, Rim Saïdi, quelles sont aujourd'hui les principales missions de la Chambre tuniso-ivoirienne donc de commerce? Parlez-nous de cette Chambre de commerce et surtout les services que vous proposez aux entreprises des deux pays.
Alors, merci Omar, Eid Moubarak à toi aussi, à Mustapha aussi. Alors, il faut savoir que la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire, c'est une jeune chambre qui a été créée en 2021, mais qui a reçu son agrément en 2022. Donc, elle est toute jeune et on est basé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une chambre mixte qui est composée de membres ivoiriens et tunisiens. Et c'est une chambre qui agit comme un pont économique et institutionnel entre les deux pays. Donc, contrairement à ce qu'on on pourrait penser, ce n'est pas une chambre qui s'adresse uniquement aux entreprises tunisiennes. Elle s'adresse aussi aux entreprises ivoiriennes qui souhaitent s'implanter en Tunisie et, ou investir en Tunisie ou avoir des partenariats en Tunisie. Donc, pour faire court, bon, la rôle de la Chambre de commerce, c'est d'apporter un accompagnement stratégique et opérationnel aux entreprises des deux pays. Donc, grâce à une excellente connaissance des environnements économiques, fiscaux, sociaux, et douaniers, juridiques, nous fournissons un appui personnalisé, que ce soit sur les problématiques d'investissement, de logistique, de fiscalité ou encore de structuration d'équipes locales.
Mais cela dit, je me tourne vers Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Alors, Moustapha El Bouri, vous connaissez bien le marché ivoirien, et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure davantage avec notre invité. Comment aujourd'hui évoluez-vous le climat des affaires en Côte d'Ivoire pour les entreprises africaines et étrangères qui désirent s'y implanter?
Oui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais très bien. Pour résumer un peu le climat des affaires en Côte d'Ivoire, par rapport à d'autres pays, il est plutôt dynamique. Et surtout, depuis quelques années, il est vraiment, on le voit, il est en constante amélioration. Il y a vraiment une volonté, je dirais, politique de rendre le pays beaucoup plus attractif qu'il ne l'était. Erim, je pense qu'elle pourra enchérir là-dessus. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites, Omar, ces dernières années. J'ai vu, moi, les démarches, parce que nous, voilà, on travaille beaucoup aussi avec les entreprises là-bas. Les démarches, tout ce qui est démarches administratives ont vraiment été simplifiées. La sécurité, qui est très importante, la sécurité juridique également. Et surtout, ils ont facilité tout ce qui est partenariat public-privé. Mais à côté de ça, bien entendu, il y a toujours un mais. Il reste des défis. Quand on essaye de faire des affaires dans un pays, surtout en Afrique subsaharienne, il faut vraiment une connaissance très, très, très fine du terrain. Il faut prendre aussi en compte les délais administratifs, même s'ils ont été améliorés. C'est vrai qu'ils restent un peu plus longs que dans d'autres pays. Et parfois, il y a un écart, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il y a un écart entre les textes et la pratique. Donc moi, je dirais le conseil ou marque que je donnerais, c'est vraiment il faut s'ancrer localement. Il faut travailler avec des partenaires ivoiriens. Il faut comprendre les codes culturels et surtout ne pas venir avec un modèle comme on fait souvent, hein, quand on arrive en Afrique, même les gens qui viennent aussi de l'Occident, ils viennent avec un modèle copier-coller. Ça fonctionne pas.
Qui n'est pas
Il faut
toujours
s'adapter, voilà.
collable au
Tout
contexte
à fait.
local. Alors,
Tout à fait.
je me tourne à nouveau vers Rim Saïdi, qui, je le rappelle, est la vice-présidente de la Chambre de commerce tuniso-ivoirienne. Elle nous parle donc depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, Rim Saïdi, aujourd'hui, si on voit les secteurs qui intéressent davantage les investisseurs, pour ce qui est du marché ivoirien, en tout cas en provenance de la Tunisie, par exemple. Quels sont ces types de secteurs, Rim Saïdi?
Alors aujourd'hui, il y a une montée en puissance dans plusieurs secteurs à fort potentiel pour les échanges bilatéraux entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Donc, on a d'abord le secteur du numérique, qui est un domaine stratégique, et la Tunisie est reconnue pour son expertise dans l'éthique et la transformation digitale. Donc, il existe vraiment de vraies synergies avec les besoins croissants de la Côte d'Ivoire en matière de digitalisation, tout ce qui est e-administration, fintech, télécom. C'est vrai que maintenant, beaucoup de paiements se font en ligne. Les impôts, par exemple, maintenant, on peut payer nos impôts en ligne, nos factures en ligne. Donc, c'est ce secteur-là aussi qui est très en évolution en ce moment pour les Tunisiens. Nous avons aussi le secteur de l'enseignement supérieur qui est très actif. Donc, de nombreuses institutions tunisiennes développent des antennes, des partenariats académiques en Côte d'Ivoire. Ça répond vraiment à la demande croissante en formation qualifiante sur le continent. Dernièrement, même, j'ai assisté à un partenariat entre une école, une université tunisienne justement, qui a ouvert ici et qui a signé un partenariat avec une université britannique en Angleterre. Donc, pour vous montrer que vraiment que l'enseignement supérieur ici est très demandé. Et finalement aussi, on a le secteur de la santé qui représente aussi un autre pilier des échanges avec la présence d'entreprises tunisiennes dans la distribution pharmaceutique, les équipements médicaux ou encore la formation des personnels de santé. Voilà. Mais le secteur le plus prometteur, ça reste l'agriculture et l'agro-industrie. Donc, les complémentarités sont vraiment évidentes. D'un côté, la Côte d'Ivoire, avec son potentiel agricole énorme, et de l'autre côté, la Tunisie, avec son savoir-faire technique de la transformation, l'irrigation ou la conservation des produits.
Donc, je
Donc,
pense que.
voici les quatre grands secteurs clés pour les investisseurs tunisiens qui veulent venir en Côte d'Ivoire.
En tout cas, vous parlez du secteur agricole. On en parle tout juste après parce que on va parler de l'Africa Food Show, donc avec notre invité Mahmoud Latifi. Alors, cela dit, il ne manque pas de freins quand même, hein, aujourd'hui, pour les hommes d'affaires tunisiens. Qu'est-ce qui aujourd'hui freine un peu cet élan d'aller s'implanter sur les marchés subsahariens? Quand on pense à ce que le Maroc a réussi, quel est du côté de la Tunisie aujourd'hui les freins qui retardent encore disons, ce déploiement en Afrique subsaharienne?
tout à fait, Omar. Malheureusement, il y a des freins, justement. Il y a plusieurs freins structurels qui continuent vraiment à limiter le plein essor de la coopération économique entre les deux pays. Donc, le premier frein, c'est la logistique, malheureusement. Il n'existe pas à ce jour de ligne maritime directe entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Donc, ça oblige les entreprises à passer par des ports de transbordement, ce qui allonge les délais et alourdit les coûts. Donc, pour les produits qui sont sensibles aux délais, comme tout ce qui est agroalimentaire et certains composants industriels, ça devient vraiment un véritable handicap. Et il y a aussi le deuxième obstacle qui est réglementaire. La Tunisie a une réglementation de change très, très restreinte. Donc, par exemple, les entreprises tunisiennes sont tenues de rapatrier les devises issues de leur exportation dans un délai court. Donc, ce qui complique vraiment la gestion de projets à long terme ou la réponse à certains appels d'offres sur les marchés africains. Mmh. Et enfin aussi, c'est le frein financier qui persiste. La Tunisie n'a pas de banque implantée ici en Côte d'Ivoire, contrairement au Maroc. Voilà. Donc, ça limite l'accès au financement, au crédit documentaire et à des services bancaires de proximité pour les opérateurs tunisiens. Et ça, c'est vraiment un gros frein. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'économie tunisienne qui est venu en Côte d'Ivoire. Donc, je lui ai fait part de justement notre rôle aussi, la Chambre, c'est de faire part aussi des problèmes que rencontrent les investisseurs tunisiens. Et bon, comme vous savez aussi, il m'a dit qu'ils travaillent dessus, qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais bon, il y a beaucoup de freins. Ils ne veulent pas privatiser aussi le secteur de la maritime en Tunisie. Il est étatique. Ils ne veulent pas privatiser le secteur aussi de les compagnies aériennes tunisiennes. Ils ne veulent pas privatiser. Donc tout ça fait que vraiment c'est difficile pour les Tunisiens en Tunisie d'exporter ici en Côte d'Ivoire ou pour les Tunisiens ici vraiment aussi s'ils veulent ou bien les Ivoiriens d'importer de la Tunisie. Donc on n'est pas compétitif en fait par rapport aux autres.
Je pense que c'est des éléments intéressants que vous venez de soulever là, Rim Saïdi. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire. Alors Moustapha El Bouri, j'ai envie de vous poser une question sur le rôle que la diaspora peut jouer, mais quand même une autre me vient à l'esprit, c'est comment aujourd'hui le Maroc peut servir d'exemple aux autres pays d'Afrique du Nord par rapport à leur présence sur les marchés subsahariens.
Oui, Omar, je pense que le Maroc, comme vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un exemple d'implantation stratégique sur l'Afrique subsaharienne. Le Maroc c'est vrai que c'est plusieurs décennies aussi, il faut le reconnaître, c'est plusieurs décennies de travail. Tous les obstacles que Rim a cités qui freinent un peu les échanges entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, ces obstacles-là ont été dépassés par le Maroc. Donc tout ce qui est banque, tout ce qui est logistique, transport maritime direct entre le Tangemed et Abidjan, tout ce qui est paiement, tout ça, ça a été vraiment implanté, amélioré. Et aujourd'hui, oui, il y a un rôle, je pense, justement, on en a discuté aussi avec Rim, je pense qu'il y a certaines synergies à trouver entre déjà les pays, mais aussi les chambres de commerce. La chambre de commerce du Maroc à Abidjan, elle est très, très, très active. Ils ont plus de 6500 membres. Et justement, on a discuté avec Rim. Je pense qu'elle va se rapprocher aussi de cette chambre de commerce-là. Et je pense aussi en termes de pays, il y a des complémentarités entre le Maroc et la Tunisie sur beaucoup de produits. Et je pense qu'il faut trouver des synergies de travail, s'asseoir, discuter, échanger et communiquer. C'est le rôle aussi de ce podcast qu'on fait aujourd'hui. Mais on va travailler ensemble aussi avec Rim et avec la chambre de commerce marocaine pour essayer d'avancer sur ce sujet.
En tout cas, c'est à suivre et on ne manquera pas de revenir aussi sur le rôle de la diaspora. On aura donc le temps d'en parler. Merci à vous deux, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, ainsi qu'à Rim Saïdi, vice-présidente de la Chambre de commerce donc, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Elle nous parlait depuis donc, la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aïd Moubarak, Saïd, et bon tabaski à vous.
Merci, Aïd Moubarak.
Merci, Omar. Aïd Moubarak, Saïd. Très bien, Inch'Allah.
Merci. Alors, ne quittez pas pour nos auditeurs. Tout de suite, nous recevons l'invité et nous restons justement en Côte d'Ivoire. C'est pour parler donc de l'Africa Food Show qui se tient au mois d'août prochain à Abidjan.
Coémergence, l'invité.
Et notre invité s'appelle Mahmoud Latifi. Il est le directeur général d'Afrique du Nord et de l'Ouest du MIE. Donc, c'est une organisation qui organise des grands événements partout à travers le monde. Et Mahmoud Latifi, que nous retrouvons donc à Casablanca. Bonjour à vous, Mahmoud Latifi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, c'est un plaisir.
Avec vous, nous allons directement en Côte d'Ivoire. C'est pour parler de l'Africa Food Show prévu en août prochain à Abidjan. Il y sera question de trouver les moyens d'accélérer la croissance du secteur agricole en Afrique. Alors, tout d'abord, pourquoi vous intéresser au secteur agricole pour cet événement?
Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, clairement, le secteur de l'agroalimentaire en Afrique est en plein essor. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges que le continent doit affronter, particulièrement pour sa sécurité alimentaire et pour la sécurité alimentaire de sa population. Donc, l'Africa Food Show, c'est un événement très important, international, qui comprend une participation de plus d'une vingtaine de pays à travers le monde. Et l'édition de Abidjan aura pour thématique une accélération de la croissance de l'industrie agroalimentaire sur tout le continent. Donc un panel d'experts étrangers et africains travailleront ensemble pour trouver des solutions qui pourront offrir au secteur agroalimentaire de tous les pays africains afin qu'ils puissent faire un challenge qui les attend par rapport à leur sécurité alimentaire. Cette année, l'édition d'Abidjan pour nous est l'édition ouest-africaine. Donc nous comptons sur la participation d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest qui justement travailleront ensemble pour justement répondre à ce challenge.
Donc, c'est l'année de l'Afrique de l'Ouest, si on ose dire, par rapport donc à l'Africa Food Show. Alors, cela dit, qu'est-ce qui est attendu comme retombée par rapport à cet événement? Donc, je le rappelle, prévu durant l'été prochain.
Absolument. Alors, beaucoup de nos participants sont des possibles investisseurs directs en Afrique dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, un des objectifs premiers de l'Africa Food Show est une mise en relation d'industriels africains avec des investisseurs étrangers des différents continents, des spécialistes du secteur agroalimentaire qui s'intéressent fortement aujourd'hui au développement de l'industrie agroalimentaire en Afrique. Donc, aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de permettre des investissements directs étrangers dans le secteur agroalimentaire africain. La deuxième perspective est aussi la mise en place de comités de recherche et d'études qui pourront travailler sur des solutions innovantes à travers particulièrement l'utilisation de nouvelles technologies afin justement de permettre d'accélérer les croissances et d'avoir des meilleurs rendements au niveau de l'industrie africaine et pourquoi pas aujourd'hui faire en sorte que l'industrie agroalimentaire africaine soit exportatrice et soit leader dans tous les pays africains.
Alors, cela dit, comment justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a le défi de la transformation qui se pose à chaque fois qu'on parle de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique, et pas que d'ailleurs, dans d'autres domaines aussi, notamment les industries extractives, c'est le même cas. Voyez-vous un intérêt des investisseurs africains à se lancer dans ces industries de transformation des produits agricoles?
Absolument. Vous connaissez très bien les taux de croissance de la population africaine. Aujourd'hui, le continent atteindra un nombre important au niveau des populations. Et tous les gouvernements en place auront pour challenge d'assurer la sécurité alimentaire de leur population d'abord. Et cela passe absolument par une transformation et une augmentation des valeurs ajoutées dans l'industrie agroalimentaire. C'est un défi incontournable, et c'est un virage que l'industrie agroalimentaire africaine doit prendre très rapidement. Et cela passe absolument par un échange d'expertise avec des experts de tous les continents. L'Afrique doit profiter aussi des expériences de tous les autres pays qui ont réussi à relever ces challenges et aussi bénéficier d'un transfert de technologie, d'un transfert de savoir pour qu'elles puissent justement accélérer justement cette croissance et répondre très rapidement aux besoins de leur population. L'Africa Food Show est justement une occasion qui permet en fait une mise en place d'une plateforme d'échange entre les différents intervenants, différents acteurs clés du secteur de l'agroalimentaire. Il ne s'arrête pas à la fin du salon qui est prévu, donc je rappelle, du 13 au 15 août
à Abidjan, mais il continue à travers ces plateformes d'échange. Et chaque année, pour chaque édition, nous faisons un bilan des avancements, des réalisations, des contrats qui ont été signés et des investissements dont ont bénéficié les différents opérateurs du secteur agroalimentaire africain. Mmh. Donc, au-delà de cet aspect de rencontre, mais il y a aussi une continuité après le salon qui permet justement de suivre un peu l'évolution et les contrats qui ont été signés, les interventions et aussi les recherches. Nous mettons un point d'honneur à intégrer dans tous nos salons une dimension scientifique parce que nous sommes conscients que la croissance ne peut aujourd'hui évoluer qu'avec des interventions technologiques et scientifiques et des centres de recherche adaptés aux contraintes et aux problématiques africaines.
Mmh. Le centre de recherche donc adapté aux contraintes et problématiques africaines. Alors, cela dit, sur la base des différentes éditions qui se sont tenues, quels sont aujourd'hui les retours d'expérience et de concrétisation d'investissement et de business dans ce domaine-là?
Alors, nous avons, au mois de novembre 2024, nous avons eu une édition de l'Africa Food Show à Casablanca. Mmh. Qui, justement, a permis la signature de convention en présence du ministre d'État, Son Excellence M. Adjoumani, ministre d'État de l'Agriculture ivoirien. Et cette convention-là est un exemple parfait d'échange entre des pays africains qui permettent entre eux un échange d'expertise. Aujourd'hui, l'Africa Food Show à Abidjan va justement faire le relais de ces échanges qui ont déjà été faits dans l'édition de Casablanca. Donc il s'agit en fait d'une continuité, c'est une stratégie qui a été mise en place par le groupe pour avoir une continuité de l'investissement de l'agroalimentaire. Alors beaucoup d'entreprises africaines, marocaines et ouest-africaines, durant l'édition de Casablanca en novembre, ont pu bénéficier de contrats d'avance technologique, de contrats de formation du personnel, de contrats aussi d'ouverture sur de nouveaux marchés, sur d'autres continents. Donc, c'est une réelle opportunité business pour le secteur de l'agroalimentaire africain. Mais, au-delà de tout ça, comme je vous l'ai dit, ça permet aussi un développement à moyen terme et une vision pour une croissance durable du secteur de l'agroalimentaire africain.
Alors, une dernière question. L'apport que l'industrie agroalimentaire du Maroc peut-elle apporter dans le développement du secteur agro-industriel dans d'autres pays du continent?
Alors, aujourd'hui, il y a d'abord l'aspect technologique. Pour une croissance, pour une meilleure rentabilité, pour un meilleur retour sur investissement, nous devons absolument aujourd'hui intégrer l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans notre croissance. Nous avons clairement aujourd'hui dans certains pays du monde, par exemple, nous avons pris le cas de l'Amérique du Sud où il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits au niveau technologique et qui ont permis d'avoir des croissances et des rendements au niveau de l'industrie agroalimentaire qui sont surprenants. Donc aujourd'hui, nous essayons aussi de nous inspirer des différentes expériences à travers le monde qui ont eu un succès clair et un succès qui a été prouvé. Donc, par rapport à nos partenaires au niveau des salons de l'Africa Food Show, nous mettons un point d'honneur justement à apporter des expériences qui ont réussi et qui sont surtout duplicables et applicables sur le continent. Aujourd'hui, clairement, dans d'autres continents, il y a une certaine avancée, mais dans d'autres, il y a des avancées qui sont parfaitement adaptées au continent. Et c'est surtout à ce niveau-là. Nous souhaitons être extrêmement opérationnels dans notre approche et nous souhaitons toujours, dans notre démarche, avoir des résultats rapides, ce qui donne vraiment une perspective encourageante pour continuer justement sur une voie d'accélération de la croissance.
Donc, accélérer la croissance. Merci à vous, Mahmoud Latifi. Je rappelle que vous êtes le directeur général Afrique du Nord et Ouest donc de MII qui organise des événements, dont donc l'Africa Food Show qui est prévu au mois d'août prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce fut un plaisir de vous avoir dans Coémergence.
Merci beaucoup, plaisir partagé. Eh bien, je vous donne rendez-vous à Abidjan du 13 au 15 août pour un événement qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver Coémergence dans notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.